On aimerait donner une précision. L'opposition a suspendu sa participation aux travaux de l'Assemblée nationale ce vendredi. Cette actualité est survenue après l'enregistrement de la tribune de la presse que vous allez suivre. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas évoquée au cours de cette émission.
Vous suivez la tribune de la presse de Radio Okapi. À la présentation, Georges Kamjova.
Heureux de vous retrouver dans cette tribune de la presse qui revient sur les faits marquants de la semaine qui s'achève. Vous le savez, le sénateur Jean-Pierre Bemba a quitté Kinshasa pour le Portugal mercredi dernier. Cela après plusieurs tractations et 3 semaines passées dans les locaux de l'ambassade sud-africaine. Nous analyserons les réactions des politiques à ce sujet, pas seulement les politiques, mais aussi la justice qui affiche de plus en plus son intention de poursuivre le leader du MLC. Deuxième fait marquant de la semaine, c'est l'interpellation de ministres à l'Assemblée nationale. Les députés voudraient voir clair sur la sécurité, l'administration et la défense du territoire congolais. Les responsables de la SNEL et de la Régie des eaux devraient aussi répondre aux questions des élus sur la fourniture d'eau et d'électricité. Nous en parlons donc tout de suite avec nos confrères de la presse, fidèles Moussangou du journal Le Phare, avec dans ce studio Séraphin Kéremaï de l'agence congolaise de presse, en ligne de Bukavu, Deo Namujimbo, journaliste responsable de l'agence CIFIA Grand Lac, et depuis Washington, au téléphone, Ferdinand Perella de la Voix de l'Amérique. Nous disons bienvenue à tous. Et donc, pour commencer, nous le disions, Jean-Pierre Bemba est au Portugal depuis mercredi dernier, officiellement pour des soins médicaux. Le leader du MLC a quitté Kinshasa avec sa famille, donc sa femme et ses 5 enfants, mais sa famille politique reste bien au pays. Le MLC qui est satisfait que son président ait quitté le pays en homme libre. Pour Denis Essanga, l'opposition continuera à jouer son rôle républicain.
L'avenir de l'opposition politique s'envisage au travers des instruments que les législateurs, le constituant a mis en place. Les opposants politiques, à quelque niveau que ce soit, ne devraient pas être inquiétés pour leur liberté d'opinion. Aussi bien les forces de l'ordre que le pouvoir judiciaire doivent travailler dans une forme d'impartialité, de neutralité qui puisse garantir la sécurité des uns des autres. Nous interpellons le pouvoir dans sa responsabilité à pouvoir user de son influence pour que les libertés pour lesquelles nous nous sommes battus ne soient pas abolies et que cela puisse rassurer tout le monde. En ce qui nous concerne, l'opposition, nous continuons à jouer notre rôle et nous jouons ce rôle dans le cadre de lois de la République, mais pour que les lois de la République tiennent, il faudrait que tout le monde puisse s'y conformer.
Denis Essanga, au cadre du MLC, fidèle Moussangou, vous avez sûrement traité cette information cette semaine. Est-ce qu'on peut dire que le climat politique se décrispe après les événements de mars dernier?
Au départ, oui, lorsqu'on a annoncé le départ de Jean-Pierre Bemba, bon, le climat politique commençait à décrister. Maintenant, on apprend que le PGR vient de lancer une lettre d'accusation grave, criminelle, à l'encontre de Jean-Pierre Bemba pour demander la levée de l'immunité. Automatiquement, le climat encore a pris l'ascenseur. Et ça devient encore plus dangereux pour la démocratie et pour le droit.
Deo Namujimbo, vous nous suivez depuis Bukavu, vous êtes responsable de l'agence CIFIA Grand Lac. Quelle est votre opinion à ce sujet?
Bon, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Mon opinion, c'est que, pas mon opinion, mais celle de tout le monde à Bukavu, c'est que c'est bien qu'on lève l'indignité de Jean-Pierre Bemba, parce que tout le monde attend qu'il soit jugé, arrêté, pour qu'on sache, les gens voudraient savoir qu'est-ce que vraiment Jean-Pierre Bemba et le MLC, les gens extrapolent, qu'est-ce qu'ils préparaient, parce que bon, vu d'ici, les gens sont certains que en faisant des analyses, tout le monde dit que Jean-Pierre Bemba préparait plutôt un coup d'État au vu du matériel militaire qu'on a retrouvé chez lui. Le départ de Jean-Pierre Bemba pour le Portugal n'est pas très bien vu d'ici à Bukavu, donc en général, disons, du Sud Kivu. Il y en a même, je me rappelle, il y a un homme politique qui vient d'être suspendu de micro par la haute autorité des médias à Bukavu pour avoir dit que, dans une émission de la Radio Maria, que Jean-Pierre Bemba devrait plutôt être décapité.
Alors, quand même. Hein.
Il est permis. Oui, on comprend mal qu'il est, que Jean-Pierre Bemba ait pu partir pour le Portugal.
Deo Namjimbo, restez avec nous. Alors, pour François Mwamba, secrétaire général du MLC, la crise se terminera avec le retour de Jean-Pierre Bemba. Et pour cela, les négociations doivent continuer. Mais pour le camp du président Kabila, les négociations ne devraient pas obstruer la justice. On écoute les députés PPRD, Jean Bouyou, Luyongola.
D'emblée, je dirais qu'il faut donner un espace d'expression à la justice aussi. Quand il y a des milliers de personnes qui meurent, 200, 300, 400, quand il y a des immeubles détruits et un tas de destructions, il faut qu'il y ait un espace d'une enquête judiciaire pour établir les responsabilités et même les coupables. Mais il demeure toujours au sein des institutions un espace de dialogue. Et cet espace, on ne doit pas l'éluder.
Donc, vous voulez dire que il faudrait négocier. Toutefois, il ne faudrait pas oublier la justice.
Le mot négociation est gênant parce qu'il peut être opposé aux justices. Moi, je vois justice et je vois dialogue au sein des institutions.
Député PPRD Jean Bouyou-Léongola, interrogé par notre confrère Claude Kianza. Alors, Fidèle Moussango le disait tout à l'heure, le procureur général de la République demande au Sénat de lever l'immunité du sénateur Jean-Pierre Bemba pour qu'il soit poursuivi. Alors, nous avons aussi dans ce studio Séraphin Kierema, vous êtes de l'Agence congolaise de presse. Est-ce que ce feuilleton est vraiment clos?
Oui, je dois dire que le départ du chairman du MLC pour le Portugal a contribué à la détente de l'atmosphère politique à Kinshasa, ça c'est vrai, mais quelque part, compte tenu de la gravité des événements qu'on a vécu les 22 et 23 mars, il faut qu'absolument quelqu'un réponde à ces actes. Et je pense que le parquet général a fait une information judiciaire, donc il est important que pour permettre des investigations au niveau de la justice, il faut absolument que cet acte soit posé. Mais le fait que le problème, c'est que la correspondance du parquet général est arrivée juste le jour où Jean-Pierre Bemba est parti au Portugal. C'est là où le problème peut-être se pose. Mais il faut absolument que la justice puisse intervenir parce qu'il y avait, il y a mort d'homme et quelque part, il faut qu'on sache quelle est la vérité. Et puisque quelqu'un doit répondre de ses actes, il faut qu'absolument des investigations.
C'est pas bien clairement, c'est un problème judiciaire ou politique?
C'est à la fois juridico-politique, parce que c'est politique parce qu'il s'agit d'un président d'un parti politique qui est impliqué dans certains événements, et d'autre part c'est judiciaire parce qu'il faut une information judiciaire, parce qu'il y a eu des morts d'hommes, on a parlé de 200 morts. Donc il faut absolument que le parquet général puisse faire une information judiciaire.
Ferdinand Ferreira, vous avez suivi aussi cette actualité de la semaine. Jean-Pierre Bemba qui part au Portugal et peu après, il y a le procureur général de la République qui demande qu'on lève son immunité au sein du Sénat. Comment analysez-vous tout ça?
Bah, d'abord, on se pose la question de savoir pourquoi le procureur général de la République a attendu que Jean-Pierre Bemba parte au Portugal pour demander la levée de son immunité parlementaire. Pour le reste, eh bien, comme ont souligné les confrères, on avait l'impression que tout était en train de se régler par la voie politique. Hein. Le départ de Jean-Pierre Bemba a été le résultat de sollicitations diplomatiques, mais aussi d'intenses tractations politiques entre différents acteurs. Et là, du froid est venu du fait que tout d'un coup, on lance pas un mandat d'arrêt, mais qu'on demande une levée de l'immunité parlementaire qui pourrait déboucher sur un mandat d'arrêt international. Donc à partir de ce moment-là, on se demande quelle sera la suite des événements. Est-ce que Jean-Pierre Bemba est parti pour des soins médicaux ou est-ce que c'est un exil prolongé? Je suis d'accord avec les confrères qui ont dit qu'il fallait absolument que toute la lumière soit faite, que la justice fasse son travail. La question est de savoir si la justice aujourd'hui en RDC est véritablement indépendante. Et quand on parle au cadre du MLC, la réponse c'est non, elle n'est pas indépendante. Donc on ne peut pas vraiment s'attendre à ce que la lumière soit faite sur les événements du 22 au 23 mars par une justice qui n'est pas perçue comme étant indépendante. Je crois que pour que la justice fasse son travail, il faut que tout le monde reconnaisse qu'elle soit indépendante. Si une des parties ne reconnaît pas cela, ça va être extrêmement difficile de sortir de cette crise par la voie juridique et judiciaire. Il faut en sortir par la voie politique.
Cordeo Namudimbo, on sait que au lendemain de son départ, le MLC avait insisté que Jean-Pierre Bemba devait rentrer aussi un homme libre. En même temps, vous avez entendu aussi les confrères, il y a cet aspect judiciaire. Quelle est votre analyse?
Mon analyse personnelle, que beaucoup de gens partagent, c'est qu'on ne comprend pas que dans ce dossier, on ne poursuit que Jean-Pierre Bemba, parce que c'est peut-être lui l'initiateur de ce qui s'est passé à Kinshasa le 22 et le 23 mars, mais il avait autour de lui toute une équipe. Les gens, c'est pas lui qui a tiré dans la foule, par exemple, c'est pas lui qui a fait les 200 morts et d'autres dégâts. Pourquoi est-ce qu'on ne poursuit que Jean-Pierre, on parle que de Jean-Pierre Bemba et pas des autres, de ses agents, de ses acolytes? Parce que si on retient la thèse du coup d'État comme beaucoup pensent, ça veut dire qu'il y avait peut-être un gouvernement déjà planifié et tout. Les gens pensent qu'il faudrait plutôt, moi aussi d'ailleurs, qu'il faudrait plutôt voir aussi, pas seulement Bemba, mais les gens qui étaient à côté de lui, parce que on comparait, il n'a pas préparé tout seul, il n'a pas planifié tout seul, voilà.
Fidel Moussangou, quel rapport aujourd'hui, sur base de ce qui se passe, quel rapport on peut s'attendre à voir entre le pouvoir et l'opposition?
Il y a d'abord un problème d'éthique. Je crois qu'on est en face d'un processus qui souffre de douleurs d'enfantement. Si j'analyse l'aspect purement judiciaire, j'ai pu ramasser des cas. Je commence par le fait qu'on a vu pendant plus de 2 mois des éléments des FARDC campés sur un cimetière, ce qui pose un acte de profanation des tombes. Alors il faut que le PGR nous dise, est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est un délit? C'est quoi profaner les tombes avec des armes de guerre pointées vers la résidence d'un chef d'un grand parti politique qui est aujourd'hui le chef de l'opposition institutionnelle? Deuxième élément, regardez les actes de pillage, les témoignages que vous avez recueillis. Les gens disent que ce sont des éléments des FARDC qui sont dans les maisons. Troisième élément, c'est le plan diplomatique. Les ambassades qui ont été visités, par qui? Par les éléments de FARDC. Alors vous voyez, ces actes risquent de poser un problème.
Est-ce que ça ne devrait pas plutôt venir d'une enquête?
Non, je trouve que il faut arrêter là. Nous avons suffisamment versé du sang. Nous sommes dans un processus de démocratisation. Il y a des douleurs d'enfantement. Il faut arrêter là, il ne faut pas remuer le couteau. D'autant que, imaginez, les événements éclatent à midi, à une heure où les enfants sont à l'école, et dans un périmètre où il y a beaucoup d'écoles primaires, maternelles, même des pouponnières, et des centres diplomatiques. Vous vous rendez compte quelle est la charge émotive des parents? Alors ça, il faut arrêter. Et les gens qui ont perdu les leurs, il faut commencer à les penser. Le gouvernement devait s'occuper de cela. Mais la solution est plus politique que du judiciaire. Parce que regardez, on s'en prend à Jean-Pierre Bemba, mais on oublie qu'il y a un Koundé Batoré. Moi, je suis malheureux d'attendre le point de vue de Bukavu. Ils oublient que la Koundé Batoré, qui a tué, violé à Bukavu, nous avons marché pendant 2 jours ici à injurer, excusez-moi les termes, la MONUC, d'être responsable. Bon, Koundé Batoré, lui, on négocie avec le Rwanda. Il y a Karim, lui maintenant, il est gratifié devant des colonels, après avoir assassiné des enfants, des vieillards et des femmes. Et lui, il est colonel. Mais vous avez l'autre Moutébouze au Rwanda, qui se la coule douce au Rwanda, il n'est pas poursuivi.
Mais il ne faudrait pas commencer par quelqu'un?
Non. Il faut d'abord régler nos problèmes en congolais. Nous nous sommes trop entretués. Mettez de côté les opposants pacifiques, mais tous ceux qui ont touché aux armes ont des comptes à rendre à la nation. Nous disons, nous faisons une table rase. Maintenant, nous devons recommencer. On récupère Jean-Pierre Bemba pour dire, monsieur, oublions ça. On lui trouve une garde rapprochée appropriée. C'est pas n'importe qui. C'est pas 14 hommes qui vont en sa sécurité, c'est pas la 4 fois qui est attaqué. Même le président Kabila. Donc, il faut trouver un logement politique. Jean-Pierre, Joseph, Roubaix et tout ça, mettez-vous une table, recommençons la vie, dansons le dombolo.
Voilà. Séraphin Kerema, vous n'étiez pas plutôt pour un arrangement politique seulement?
Tout à fait. Mais moi, je pense que chaque fois qu'il y a mort d'homme, il faut qu'absolument quelqu'un réponde à ces actes. C'est pas dit qu'un Koundé Batoré qui a arrasé des villages entiers à l'est doit demeurer dans l'impunité. Il faut qu'absolument dans ce pays, que la loi puisse devenir un jour la mère des sciences, si vous voulez. Il faut que la loi soit appliquée dans ce pays.
Oui, mais vous avez entendu, par exemple, Ferdinand Ferrella soulever le problème de l'indépendance de la justice, et on sait que, par exemple, dans ces affrontements, il n'y avait pas qu'une seule partie.
Mais absolument, c'est pourquoi il faut des investigations. Mais la justice ne peut pas faire des investigations sans l'information judiciaire. C'est pourquoi ça a commencé par ça. Tous ceux qui ont versé des sangs dans ce pays doivent répondre de cela. Et c'est pour cela que la Cour pénale internationale est en train de juger aujourd'hui Thomas Lubanga. Parce qu'il a versé des sangs. Donc il faut absolument que la loi soit appliquée dans ce pays.
Voilà, le phare a annoncé aussi cette semaine que le leader de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, a quitté aussi le pays pour des soins médicaux en Afrique du Sud. Alors ça fait deux leaders de l'opposition institutionnelle et l'autre FA institutionnelle qui se trouvent en dehors du pays pour les mêmes raisons. Peut-on placer ces faits dans le registre de coïncidence, Ferdinand Ferrella?
Bon, d'abord, je dirais que c'est pas pour les mêmes raisons. Je crois que même si Jean-Pierre Bemba avait effectivement un rendez-vous médical qui était prévu pour le lundi, je crois, au Portugal, c'est un rendez-vous qui aurait pu être reporté. Je crois que l'importance du rendez-vous était certainement moindre par rapport à ce qui s'était passé à Kinshasa et tous les traumatismes que ça avait pu entraîner. Donc, dans le cas d'Étienne Tshisekedi, on peut imaginer que c'était vraiment un rendez-vous médical, non pas un exil, parce que de plus en plus, on parle d'exil maintenant à l'égard de Jean-Pierre Bemba. Je voudrais revenir sur ce que disait tout à l'heure Déo. Tu disais que bon, la perception à Bukavu, c'est que Jean-Pierre Bemba préparait un coup d'État et que c'est un crime de haute trahison. Je voudrais vous répondre un peu, vous dire un peu ce que m'avait dit Jean-Pierre Bemba quand j'avais eu l'occasion de l'interviewer à l'intérieur des locaux de l'ambassade d'Afrique du Sud. Il m'avait dit, mais Ferdinand, si je voulais préparer un coup d'État, est-ce que je serais tranquillement chez moi avec mon épouse? Est-ce que j'aurais mes enfants à l'école à quelques centaines de mètres de l'endroit où se sont produits les incidents? J'aurais pris mes précautions. Parler de coup d'État, je crois que c'est un petit peu prématuré. Je crois qu'il faut plutôt parler d'un concours de circonstances qui ont fait que une étincelle a mis le feu aux poudres à Gombe et a produit les événements malheureux qu'on connaît. Il reste à savoir maintenant qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et puis il faut effectivement faire une enquête, mais une enquête exhaustive, comme l'a dit un confrère tout à l'heure, pas seulement diriger les canons de la justice vers Jean-Pierre Bemba, mais vers tous ceux qui ont commis des infractions. Et les FARDC sont loin d'être au-dessus de tout soupçon dans tout ça. Et tant qu'on aura passé ce travail exhaustif d'investigation, non seulement judiciaire, mais aussi politique, je dirais, à ce moment-là, on n'arrivera pas à faire redémarrer le pays, parce qu'il faut bien le dire maintenant, c'était 3 mois que le gouvernement est en place, rien n'a été fait pratiquement. Le Sénat n'est même pas encore complètement opérationnel, son règlement d'ordre intérieur n'a pas encore été approuvé par la
Cour suprême de justice.
Donc on a l'impression qu'on piétine à cause de quoi? À cause d'une crise, une autre crise qui pourrait être aggravée encore si le Sénat devait lever l'immunité parlementaire de Jean-Pierre Bemba et donc aboutir à la déchéance de ses droits politiques. À ce moment-là, il faudrait se poser la question, quel sera l'avenir de la démocratie en RDC avec une opposition qui sera pratiquement décapitée.
Vous êtes en train de suivre Tribune de la Presse. L'opposition a suspendu sa participation aux travaux de l'Assemblée nationale ce vendredi. Cette actualité est survenue après l'enregistrement de la tribune même que vous suivez. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas évoquée au cours de cette émission. Tribune de la Presse qui analyse les faits marquants de la semaine avec les journalistes. Fidèle Moussango du journal Le Phare, avec dans ce studio Séraphin Kiremaï de l'agence congolaise de presse. En ligne de Bukavu, Léo Namujimbo, journaliste responsable de l'agence CIFIA Grand Lac, et depuis Washington, au téléphone, Ferdinand Ferrella de La Voix de l'Amérique. La sécurité au Nord Kivu, au Sud Kivu, ainsi qu'en Ituri, le mixage et le brassage des FARDC, voilà des questions qui intéressent les députés. Le ministre de la Défense a été appelé à éclairer les élus sur ces questions. Nous allons d'abord sur terrain, au Nord Kivu. L'Assemblée provinciale vient d'adopter un rapport sur l'insécurité constatée dans cette province depuis le début de l'année. Et ce rapport met en exergue l'implication des soldats des brigades récemment mixées dans une série d'exactions. Nous allons en savoir un peu plus avec notre confrère Bernard Nyangui dans cet entretien avec Kéline Couté.
Bonsoir Bernard, que dit exactement ce rapport?
Eh bien, bonsoir Kélie. Ce rapport est consacré pour moitié à l'insécurité dans le Rutshuru et le Masisi et au rôle des brigades mixées, notamment Alpha, Bravo et Charlie, déployées entre janvier et mars 2007 dans ce territoire. À Masisi, par exemple, les unités issues de la brigade Charlie déployées à Ngungu, Gasake, Luke et Mushaki sont responsables, selon le rapport, de plusieurs cas de viol, rassemblement, torture et incendie des maisons. Quant à la brigade Alpha, le bataillon le plus incriminé par le rapport est celui déployé à Mouesso, Kachunga et Kalembe. Enfin, la brigade Bravo déployée vers l'est du territoire de Rutshuru sécurise la totalité des localités sous son contrôle. Plusieurs personnes ont été assassinées, sinon enlevées par les éléments de cette brigade. La commission estime que c'est une erreur que d'avoir déployé les troupes mixées dans les régions où elles ont jadis commis plusieurs exactions. Et ce rapport de préciser que toutes les parties contrôlées par les troupes mixées sont en proie de l'insécurité.
Mais ce rapport évoque seulement l'insécurité dans les territoires de Rutshuru et des Massissi. Qu'en est-il des autres territoires?
Dans le territoire de Walikale, par exemple, ce même rapport décrit que les principaux acteurs de l'insécurité sont principalement les groupes armés étrangères, Interahamwe et FDLR, ainsi que les militaires non brassés de la 85e brigade, essentiellement composée des Maïmaï. À Boutembo, dans le grand nord de la province et du Nord Kivu, selon toujours ce rapport, des militaires de la 2e brigade intégrée tracassent et violent certaines femmes. Sur place et toujours, les épouses de ces militaires font la loi. Dans le territoire de Beni, l'insécurité est principalement causée par la présence de forces négatives étrangères à Desnalu et à Bundingula et Kikingi, dans la vallée de la Semuliki.
Et quelles sont donc les conclusions de cette enquête?
Au chapitre des recommandations, le rapport demande le déploiement des brigades mixées dans d'autres provinces que celles de l'ancien Kivu et une prise en charge correcte des autres militaires pointés du doigt dans toutes les autres exactions.
Merci beaucoup, Bernard.
Merci.
Séraphin Kiremain, vous avez suivi les réponses du ministre de la Défense par rapport aux problèmes d'insécurité et il demande beaucoup plus de moyens. Vous pensez que c'est juste d'accorder beaucoup plus de moyens au ministère de la Défense?
Oui, moi je pense que s'il y a un problème qui devait accaparer l'attention du gouvernement Intestat, c'était justement l'intégration de l'armée. Le fait de ne pas avoir réussi à former une armée républicaine, si je peux dire, c'est ça qui est à la base de toute cette insécurité. Je pense qu'à Kinshasa, quand on parle de l'insécurité dans le Kivu et en Ituri, les gens ne comprennent pas ça, mais il faut avoir vécu au Kivu, il faut avoir fait le voyage du Kivu pour vivre ce qu'il y a comme insécurité dans le Nord Kivu et ailleurs, Sud Kivu, ou bien en Ituri. Vous savez qu'il y a des villages entiers qui sont parfois détruits par des hommes armés. Donc, il fallait absolument une armée forte, il fallait absolument former une armée intégrée pour combattre tous ces groupes armés. Et aujourd'hui, certainement qu'on n'a pas réussi, et on parle de brassage, tantôt de brassage, tantôt de mixage. En fait, mixage, c'est quoi? C'est qu'on prend les mêmes militaires qui sont sur place, on les forme sur place, et ils ne peuvent pas aller ailleurs. C'est-à-dire qu'un militaire qui est formé, par exemple à Rutshuru, ne peut pas aller à Boma, dans le Bas-Congo. Vous comprenez? Donc, il peut continuer à inquiéter la population qui est là, et il reste sur place. Ce qui n'est pas bon, à mon avis, il fallait absolument faire des brassages, prendre par exemple ces armées, ces groupes armés qui sont dans le Nord, qui vont les amener ailleurs et commencer à les former, à les équiper.
Deo Namujimbo, vous êtes sur terrain, vous vivez aussi cette réalité, votre commentaire?
Donc, mon commentaire, c'est ce que j'ai dit mon confrère tout à l'heure. Il ne faut pas s'arrêter, c'est une demi-mesure, c'est une sorte de mixage. Quand on a décidé de brasser tous les militaires, pourquoi est-ce qu'on ne brasse pas ceux de Laurent Kunda et qu'on les mixe? Mais ça se voit des demi-mesures, ça ne va pas blesser de tout ça. Si vous continuez à faire ce qu'ils veulent à Rutshuru, dans le Grand Nord, qui vous, c'est parce qu'ils se sentent intouchables, personne ne sait jusqu'à présent qu'est-ce qu'ils se sont convenus avec les émissaires, les généraux qui sont allés voir Kunda, etc. Général Numbi, général Tangoufort, qui sont ses amis, en fait, ils ont tous été dans le RCD. Personne ne sait ce qui se prépare, c'est ça. C'est pour ça que les gens, que ce soit là-bas ou même à Baraka, je viens de Baraka, où c'est le général Zoumia qui installe les autorités sur place politico-administratives. C'est lui qui perçoit les taxes. Moi, je viens de Baraka il y a une semaine. Mais alors, si il accepte d'aller au passage et qu'il ne part pas, c'est lui qui fait la loi. Il a bastonné publiquement deux jours avant que j'arrive là-bas. C'est le chef de service local à Baraka, du commerce extérieur. Et il a fait chasser celui qui venait d'être nommé comme chef de la DGM, de la DGM. Donc c'est lui qui fait la loi là-bas. Donc si on ne s'en prend qu'à une catégorie de militaires et qu'on laisse les autres faire ce qu'ils veulent, je ne vois pas la fin de la récréation dans tout ça.
Mais Deo Namugimbo, est-ce que vous pensez que l'interpellation du ministre de la Défense devant l'Assemblée nationale peut changer quelque chose?
Oui, je crois qu'il peut voir. Personnellement, honnêtement, je n'ai pas suivi le ministre de la Défense. Je n'ai pas bien suivi, j'ai eu des commentaires qu'il était passé à l'Assemblée nationale. Mais je ne sais pas très bien ce qu'il a dit. Mais s'il a parlé de finir l'impunité, moi je crois que c'est tout ce que tout le monde attend. Tous ceux qui ont fait le mal, comme vient de dire Sordino, ils doivent être jugés. Moi j'ai vécu à Bukavu tout le temps des guerres, de l'AFDL et du RCD. On a vu des militaires qui sont aujourd'hui aux commandes de l'armée, à des très hauts rangs, qui ont fait des histoires terribles, qui ont massacré, qui ont volé, pillé, etc. Pourquoi ne prend que Thomas Lubanga? Parce que bon, quelqu'un me disait dernièrement que si on devait arrêter tous ceux qui ont commis des crimes, tous les militaires qui ont commis des crimes pendant les rébellions dites de guerre de libération, on devrait plutôt construire un grand mur autour de Kivu, parce qu'il y a des gens qui ont fait des trucs terribles, mais qui aujourd'hui juste du pouvoir parce qu'ils se savent intouchables. Donc ça, c'est vraiment si on devait démarrer, si on veut finir la récréation, on ne doit pas faire de bord de mesure. On doit juger tout le monde, je crois.
Sidel Moussangou, les députés ont soulevé aussi le fait que l'opération de mixage était une opération assez opaque, et vous avez un peu suivi le ministre de la Défense qui disait que les affaires de la Défense ne devraient pas être traitées sur la place publique. Qu'est-ce que vous pouvez en dire?
La première chose, je dis, le ministre Tiquez est passé à côté de la plaque. Il n'a pas touché, il connaît le fond du problème. C'est que le problème de la sécurité au Kivu, au nord du Kivu, est d'abord un problème politique. C'est un problème qui est toujours attisé par les politiciens et capable d'être devant les débats politiques. Et pour rien, il retourne à la tribu. J'ai suivi le député Jean-Posco Barayima. Oui, il a donné des émotions au capital, 35, 15 officiers Tutsi. Mais ça, c'est typique du Kivu. Pourquoi? Parce que là, il y a un problème. Les rwandophones, voilà leur électrotif. Ils se disent minoritaires, ce qui est vrai. Mais non, c'est en face des autres qui les traitent de Rwandais. Alors, cette frustration les met dans une position de survie.
C'est pas ça aussi la sensibilité même de la question.
Justement, alors maintenant, il faut commencer par interdire, ériger une sorte de sanctions sévères contre toute personne, surtout le politique, qui se permettrait d'attiser cette haine tribale, surtout contre les rwandophones, qui sont nos compatriotes depuis des millénaires, et avec lesquels nous avons du sang. Ça fait un. D'autant que nous avons le Rwanda comme voisin et le Burundi, et nous ne pouvons pas les changer. Et d'autant que aussi les tribus de l'Est sont plus proches des Rwandais et des Burundais qu'elles le sont des Baluba ou des Bakongo. C'est une réalité qu'il faut prendre. Maintenant, il faut commencer par là. Interdire, en faire une sanction grave, politique. Ensuite, je crois que c'est maintenant où Joseph Kabila doit aller installer son TG à Bukavu et à Goma. Et suivre de près, déplacer tous les meilleurs officiers militaires, là à Bukavu. Suivre de près les chars de combat que j'ai vu déployer ici. Leur place n'est pas ici, contre Bemba. C'est à Kanyola, c'est là, dans les Massissi. Et négocier des yeux avec coup d'abattoir. Le réhabiliter et les charger de traquer les Ibrahims. Si on traque les Ibrahims, on donne un coup d'abattoir. On dit, bon, vous êtes un peu téméraire, allez, voici les moyens, chassez-nous ces gens-là. Négocier avec les Rwandais, qui sont devenus des voisins, des frères. Monsieur Kagame, vos hommes, on vous les donne. C'est fini. On aura pacifié le Sud-Kivu quand on négocie là. Ensuite, on monte à
Nous avons suivi dans le rapport de l'Assemblée provinciale du Nord-Kivu, les brigades mixées aussi sont indexées.
Ça, c'est une accusation peut-être gratuite. Déjà, le fait d'accepter le mixage est une erreur. C'est une violation de l'accord. On n'allait pas accepter ça. D'abord, donc, on met à nu, on met sur le devant de la scène une catégorie, une communauté congolaise. Pourquoi les faire pour les rwandophones? Pourquoi les pas faire pour les Bashi, les Warega? On dit, bon, les éléments originaires de la tribu Bashi seront mixés. On les fait. Ça, c'est une erreur, c'est une provocation délibérée pour aboutir à l'indexation d'une communauté. Il fallait dire, non, monsieur, les éléments là-bas, nous allons les former. Mais ensuite, il faut d'abord installer une discipline. Cela, on lui dit, la présence de Joseph Kabila, de formation militaire, s'avère indispensable à Bukavu. Il y était pour les élections, donc il rentre. C'est très important pour, d'abord, sécuriser et donner à la population quand même un réconfort. Sa présence est là. Il peut faire les réunions du gouvernement à Bukavu.
Alors, Ferdinand, là, vous avez suivi les confrères ici avec les analyses et les commentaires. Qu'est-ce que vous dites sur l'aspect défense de la RDC?
Écoutez, j'ai pas suivi exactement les interpellations des ministres à l'Assemblée nationale, mais je pourrais dire déjà d'emblée que c'est extrêmement salutaire que l'Assemblée nationale interpelle comme ça que la branche législative interpelle l'exécutif. C'était nouveau en RDC. Rappelez-vous, autrefois, les ministres n'avaient des comptes à rendre qu'au Premier ministre ou même au président lui-même. Excusez-moi. Donc, rien que le fait que cet exercice se passe prouve qu'il y a quand même quelque chose qui se passe en RDC. Je disais tout à l'heure, on a l'impression que le gouvernement ne gouverne pas, mais il y a quand même des institutions qui commencent à se mettre en place et à fonctionner. Maintenant, sur le fond de la question, j'ai entendu tout à l'heure que la sécurité à Rutshuru provenait essentiellement des éléments mixés. Bon, il faut dire une chose, le problème de la sécurité dans cette région, c'est pas le problème des troupes mixtes, c'est le problème d'une part de l'armée nationale congolaise, et on connaît sa situation, elle est mal payée quand elle est payée, donc elle a recours aux extorsions et autres moyens pour survivre, et puis il y a tout le problème des groupes étrangers qui continuent de proliférer dans le sud et le nord Kivu, hein. Il y a les rebelles ougandais, il y a les FDLR rwandais, il y a encore des groupes maïmaï incontrôlés qui continuent de semer l'insécurité. Donc tout cela, c'est ça le véritable problème. C'est pas le problème des troupes mixées. Ma foi, si on mixe des troupes, un accord politique a été trouvé de façon à ce que ces troupes restent près de leur communauté, parce que, comme l'a dit un confrère, ces communautés se sentent menacées. Le vrai problème, c'est pas ça. Le vrai problème, c'est ce qu'a dit tout à l'heure un confrère. Qu'est-ce qu'il adviendra, qu'est-ce qu'il est advenu du général Kunda, de Peter Karim dans l'Ituri? On accuse aujourd'hui Jean-Pierre Bemba d'être entré en rébellion contre sa propre armée, d'organiser un coup d'État. Mais il ne faut pas oublier que le général Kunda avait pris Bukavu l'année dernière, ou il y a deux ans. Et puis, il n'y a pas si longtemps, il avait pris Sake. Donc, c'était aussi une rébellion contre sa propre armée. Et là, une rébellion avérée. Et qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Eh bien, que le mandat d'arrêt, si mandat d'arrêt il y avait eu contre lui, a été levé, ou en tout cas a été ignoré, et qu'il a même été promu. Dans le cas de Peter Karim, on apprend qu'il est colonel maintenant, alors qu'il est responsable d'exaction, il est responsable de meurtre de casque bleu, de séquestration du casque bleu. Donc tout cela est à la base, à mon avis, du climat de malaise qui fait qu'on a l'impression que le problème de la sécurité est loin d'être réglé. Je vais vous dire une chose, j'étais à Goma au mois de décembre, j'ai demandé aux gens bon, qu'est-ce qu'ils pensaient de ce nouveau gouvernement, qu'est-ce qu'ils pensaient de ces élections, qu'est-ce qu'ils pensaient de tout le processus. Et la réponse à chaque fois était la même. Ce nouveau gouvernement sera jugé sur un point et un seul. La question du rétablissement de la sécurité. Les questions sociales, oui. Les questions économiques, oui. Tout ça, oui. Mais si on ne peut pas dormir tranquille la nuit, ça ne sert à rien qu'on augmente nos salaires ou que l'économie redémarre, parce qu'on n'arrivera pas à survivre. Voilà.
On va passer la parole à Kerema. Est-ce que les politiciens tiennent compte vraiment du fait que les populations sont en train de souffrir de ce problème d'insécurité?
Mais je pense, parce qu'il y a des représentants du peuple à l'Assemblée nationale, le fait de faire une question orale avec débat au niveau de l'Assemblée générale, je pense que c'est une façon de justement d'intéresser le peuple à la situation de l'insécurité dans l'est du pays, de telle façon que on puisse donner des éléments essentiels pour l'Assemblée nationale. Et je pense que à l'avenir, ils pourront certainement envoyer une commission d'enquête, comme on en a l'habitude, sur place, de façon à examiner la situation et traiter le problème de façon politique, parce que jusqu'à présent, on a essayé de résoudre cela militairement, mais pratiquement on n'a pas réussi. Donc il faut absolument, comme l'a dit certainement un confrère, il faut absolument une solution politique.
Mais quand vous parlez de commission, est-ce que c'est pas ça la stratégie pour mettre les problèmes en latence et ne plus jamais les traiter?
Ah ben je ne sais pas, mais le problème, il faut le traiter. Et pour le traiter, il faut une stratégie, et une des stratégies parlementaires, c'est la commission d'enquête. C'est ça que le Parlement a l'habitude de faire.
Vous êtes en train de suivre Tribune de la Presse. L'opposition a suspendu sa participation aux travaux de l'Assemblée nationale ce vendredi. Cette actualité est survenue après l'enregistrement de la tribune même que vous suivez. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas évoquée au cours de cette émission. D'autres interpellations devraient concerner les responsables de la régie des eaux et de la SNEL. C'est sur la fourniture d'eau et d'électricité. Et cette semaine, à Kinshasa, l'eau se fait rare. En fait, je crois que vous-même, vous vous êtes déjà lavé. Notre confrère L'Avenir a même titré « Les Kinois ont soif ». Qu'est-ce qui est à la base de cette situation? Écoutons Alphonse Mabolo, administrateur, directeur technique de la régie des eaux.
Il y a deux jours, le samedi, on a commis un arrêt de 8h à 21h. L'usine d'Enjili, qui dessert 70% de la ville de Kinshasa, était à l'arrêt parce qu'il y avait une panne sur le réseau électrique. Les amis de la SNEL étaient en train de dépanner. Lukunga également, pour la partie Ngalema, était aussi à l'arrêt parce que là aussi il y avait des chutes de tension. Ça n'a pas permis d'assurer une très bonne desserte. Nous sommes à la journée de samedi et parce que les usines ont repris la nuit vers 21h, 22h. Vous voyez le temps de remplir les conduites. Le matin, les gens sont réveillés nettement sans eau. Ça a suivi toute la journée. Vers le soir, on rétablissait déjà la situation. Il a plu, malheureusement. Et donc, le traitement devenait quasiment impossible.
Alors, il a plu, malheureusement, pour la régie des eaux, mais heureusement pour les populations qui ont pu se servir aussi d'eau de pluie. Mais vous avez bien suivi, la régie des eaux rejette la balle dans le camp de la SNEL. La SNEL aussi s'en défend. Rombo Foumani, directeur département distribution courant électrique à Kinshasa.
C'est vrai que les machines de la régie des eaux tournent avec l'électricité. La régie des eaux n'a pas que les problèmes d'électricité. La régie des eaux a des problèmes de suffisance de production d'eau dans la ville. Je pense qu'il faut les approcher et discuter avec je doute fort bien que quelqu'un qui connaît bien la situation au niveau de la régie des eaux puisse peut-être avancer ce genre d'arguments. Je crois que c'est le départ que nous sommes en train de mener à la régie des eaux. Les ministres nous réunissent plusieurs fois. Ce matin, j'étais encore sur le ministre de l'énergie avec les amis de la régie des eaux, en train de regarder la possibilité de trouver des voies de secours éventuellement pour la régie des eaux. Mais le problème n'est pas complètement uniquement SNEL. Le problème, il est aussi régie des eaux. Je crois que nous devons nous mettre ensemble et peut-être avec l'appui du gouvernement pour régler ce problème.
Voilà, Ferdinand Ferreira, je pense que vous n'êtes pas concerné très directement par ce problème. Vous êtes à Washington, mais c'est quand même un chantier difficile, hein, l'eau et l'électricité.
Oui, et c'est là peut-être que le gouvernement a l'occasion de montrer quelques signes visibles que quelque chose a changé depuis les élections, que avant les élections, soit plus comme après les élections. Je ne sais pas exactement ce qui pourrait être fait, je ne connais pas les problèmes réels et les détails techniques, et ce qui pourrait être fait pour que les Kinois soient approvisionnés en eau et en électricité de manière régulière. Mais il me semble que si le gouvernement voulait montrer que, ma foi, les choses sont en train de s'améliorer, c'est des petites choses comme ça qui feraient que dans la vie quotidienne, les Congolais pourraient reprendre confiance dans leur avenir et dans leurs institutions.
Alors le problème d'eau et d'électricité, c'est un problème national, il ne concerne pas seulement Kinshasa. Deo Namudimbo, pour vous, est-ce que ce chantier sera vraiment effectué par le pouvoir actuel?
Je dois tout de suite jeter les fleurs au directeur de la régie des eaux, qui est à Bukavu, qui il y a beaucoup de difficultés, je sais, on en parle dans toutes les conférences de presse, il y a beaucoup de difficultés, mais de ce côté-là, au moins, on voit qu'il y a des efforts qui sont faits. Il y a des efforts qui sont faits, il y a de moins en moins de coupures, intempestives de fourniture d'eau, sauf que dans certains quartiers, le problème demeure, mais au moins, on doit dire que le problème est combattu. Il y a le quartier Essence, par exemple, le quartier Major Vangou, le quartier Pangui en général, où il n'y a pas d'eau depuis plus de mois. Bon, ça veut dire là on n'arrive que la nuit et le matin il n'y a plus d'eau et les enfants doivent et les mamans doivent aller puiser de l'eau à la rivière avec tout le risque. Il n'y a pas 14 jours, je crois, il n'y a pas 2 semaines, il y a un enfant qui a coulé, une petite fille de 14 ans qui a coulé dans la rivière. Mais de ce côté-là, côté la JDZ, il y a des efforts qui sont faits. Alors là, ce que les gens déplorent, c'est que les mêmes efforts ne sont pas encore faits, tout à fait visibles du côté de la SNEL. Parce que à la SNEL, c'est vraiment la gabegie chez moi aussi, ça fait 2 semaines que j'ai pas de courant. Et maintenant, les gens font, il y a des autorités militaires ou politiques qui eux, ont droit au courant toute la journée et qui revendent, certains revendent le même courant, les militaires, je connais un colonel de pas loin de chez moi, qui revend le courant à ses voisins, au prix qu'il veut, et qu'il peut couper quand il veut. Alors là,
donc vous voulez dire que la population quelque part est aussi responsable de ce malheur un peu social.
Oui, un peu responsable dans ce sens, peut-être qu'on contrôle des fils électriques, etc. Et les gens les faire, quoi, les gens les faire, ils acceptent de payer des factures. Bon, je ne vais pas demander aux gens de ne pas payer leurs impôts, non. Mais quand on a une facture, j'ai dépendamment une facture du mois de mars, mais depuis février, j'ai pas de courant à la maison. Mais on doit payer, tout le monde paye. Il y en a même qui parlent maintenant de clôturer leurs parcelles et d'acheter des chiens pour ne pas voir les agents de la semaine venir relever le compteur. Bon, ça veut dire que le malaise social est là, mais tout le monde a les yeux braqués sur les promesses du président, parce que bon, maintenant on commence à voir que ce serait peut-être des promesses vaines. Donc même si il y a, je suivais la radio Mandelo, je crois, il y a un appel d'offres qui est lancé pour que des sociétés s'investissent à créer d'autres barrages électriques sur la Rougézi 3 et l'ancien congéfort et tout. C'est une bonne chose, mais bon, on vu déjà c'est des faits pires, quand on dit que bon, c'est des promesses, mais les choses ne vont pas assez vite. Parce que bon, maintenant c'est bientôt la saison sèche, mais ça veut dire que des peu de courant, de quelques quartiers qui sont encore approvisionnés en courant, dès que ce sera de pleuvoir, il n'y aura plus de courant pendant 6 mois, pendant toute la période sèche, quoi, voilà. Alors les gens ne comprennent pas pourquoi le président ne fait pas, bon, évidemment peut-être que le gouvernement est limité, mais les gens voudraient que les choses aillent plus vite, voilà.
Voilà, Fidèle Moussangou, vous-même vous êtes concerné par cette situation d'électricité et d'eau depuis une semaine à Kinshasa. Est-ce que vous croyez que l'interpellation des responsables des deux sociétés devant l'Assemblée nationale pourra apporter une solution?
Non, encore une fois, les temps sont les papiers à côté. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Si on laisse à la régie des eaux et à la SNES toute la liberté de gérer leurs recettes, première condition, ces gens, nous avons des grands cadres, sont en mesure de satisfaire aux besoins de la population. Deux, si en les laissant à la gestion, on leur donne l'occasion de négocier des financements avec les banques internationales, la SNEL et la Régie des eaux peuvent obtenir des financements de l'ordre de 400 millions de dollars et faire les travaux de réfection et nous ne connaîtrons plus jamais les délestages. Autre élément, je crois qu'il faudrait maintenant poser un acte patriotique. Là, j'en appelle le président de la République. Si j'apprends demain que le président décide, à partir d'aujourd'hui, moi-même je paye ma consommation d'électricité parce qu'il est payé. Tous les ministres payent, tous les responsables des ANR, DSP, GSSP, compagnie payent. Les recettes vont augmenter. À ce moment-là, nous, le petit peuple, qui n'avons pas des moyens, nous serons contents d'apprendre que même le président paie le courant, même le président paie la SNEL. Les techniciens vont chez le président pour prélever les compteurs. Ça fait une chose. L'administration publique pour augmenter les recettes. Alors, on aura maintenant généré des recettes locales assez importantes avec la vente à l'extérieur, que les banques pourront nous prêter de l'argent à des taux très bas. Et nous aurons à améliorer les services.
Est-ce que vous dites là, c'est quand même un plan et qui devait s'étendre sur 2 ans ou 3 ans, non?
Il faut commencer maintenant, comme disait Kennedy, let's begin now. Il faut commencer maintenant. Il faut dire demain, allez, on fait ceci. Et on dit, SNEL, Régie des eaux, gérez vos recettes, mais rendez-nous compte. Là, maintenant, le PDG de la SNEL peut aller devant l'Assemblée, fièrement, et parler en connaissance des causes. Mais il est là, il ne dit pas tout, parce qu'il ne peut pas dire, non, vous savez, avant de sortir 10 000 dollars, je dois l'autorisation de la présidence ou du ministère des tutelles. Il ne gère pas les recettes en devises. Même les recettes en monnaie locale, il a un plafond parce que le politique s'en mêle. Voilà le fond du problème.
Voilà, Séraphin Kieremaï, bon, tout comme Fidèle Moussangou, vous êtes venu en chemise, vos vestes, il n'y a pas eu d'eau?
Oui, mais s'il y a quelqu'un qui a été victime ce matin, c'est moi, parce que moi je suis à quelques kilomètres de l'usine de traitement de Djiri, mais ce matin je n'avais pas d'eau et je n'avais pas non plus de l'électricité. Donc je pense que s'il y a un chantier par lequel il faut commencer, c'est celui-là. Il faut absolument que le gouvernement puisse donner un signal fort dans ce domaine-là. Et comme l'a dit Fidèle, je pense qu'il faut arriver absolument à donner l'occasion à toutes ces entreprises à gérer leurs recettes et ne pas aller puiser chaque fois dans ces recettes. Et je crois qu'il y a un ingénieur, je crois Moussa Moutima, qui dernièrement, lors d'une conférence de presse, a fait quand même des propositions intéressantes dans ce sens-là. Donc il faut absolument qu'on puisse résoudre ce problème d'électricité parce que c'est un casse-tête après tout. Un casse-tête, donc il faut arriver à trouver, même si c'est un processus, mais il faut commencer quelque part. Il faut absolument qu'on sente que nous avons un nouveau gouvernement et qui est décidé à trouver des solutions aux problèmes des populations. Et une des solutions, c'est trouver de l'électricité pour les populations.
Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette tribune de la presse qui analysait les faits marquants de la semaine avec les confrères journalistes. Nous leur disons merci. La rediffusion de cette émission en FM, c'est demain à partir de 5h, car heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la suivre sur votre site internet www.radiookapi.net. Merci et à la prochaine. Okapi, okapi.